France Inter, franceinter.com.
Bonjour, aujourd'hui une histoire qui a commencé il y a 4 milliards et demi d'années, la Lune. De deux choses l'une, l'autre c'est le Soleil. Jacques Prévert. Deux mille ans d'histoire. Parce qu'elle est l'astre le plus proche de la Terre et le premier avec le Soleil qu'ils ont pu observer à l'œil nu, la Lune a toujours fasciné les hommes. Présente dans toutes les religions de l'Antiquité, ils l'ont associée à leur Dieu et à des superstitions auxquelles on croit encore, malgré les progrès de la science, qui depuis Galilée nous permettent de mieux connaître le plus familier des corps célestes. Surtout depuis la nuit du 20 juillet 1969. Cette nuit-là, Neil Armstrong réalisait le plus vieux rêve de l'humanité en mettant le pied sur la Lune. C'était l'aboutissement d'un projet lancé 8 ans plus tôt par John Kennedy. Certains se demandent, disait-il, pourquoi la Lune. Ils pourraient se demander aussi pourquoi escalader la plus haute montagne et pourquoi on a traversé l'Atlantique en avion. Nous choisissons d'aller sur la Lune, comme bien d'autres choses, non pas parce qu'elles sont faciles, mais parce qu'elles sont difficiles.
Why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard.
5, 4, 3, 2, all engines running. Launch commit, liftoff. The tower is clear.
C'était le 16 juillet 1969, le décollage de la fusée Saturne qui allait réaliser le plus vieux rêve de l'humanité, déposer un homme sur la Lune. Jean-Pierre Verdet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien de l'astronomie à l'Observatoire de Paris. Pourquoi est-ce que de tous les astres qui nous entourent, la Lune est celui qui nous fascine le plus? Dans votre dernier livre, L'Univers, vous dites que c'est elle qui fait l'objet du plus grand nombre de légendes, plus encore que le Soleil.
Oui, bien sûr. On peut être étonné aujourd'hui parce que aujourd'hui, on sait que le Soleil est beaucoup plus important pour la vie terrestre que la Lune. Ceci dit, la Lune a toujours fasciné d'abord parce que c'est un astre très proche.
Entre 350 et 400 000 kilomètres, oui, selon l'ellipse.
380 000 en moyenne. Ensuite, on peut la fixer à l'œil nu sans risquer de perdre la rétine, ce qui n'est pas le cas du Soleil. C'est quand même un astre fascinant. Je pense que la raison la plus profonde, c'est les phases lunaires. Le soleil se lève tous les matins, c'est pour ça que les éclipses de soleil déclenchaient les terreurs. Le soleil est quotidien, il est toujours identique à lui-même. La lune, il y a les phases, donc il y a le cycle de la naissance et de la mort. Il y a le fait que le cycle lunaire est très proche du cycle menstruel féminin, ce qui a frappé les imaginations. Il y a qu'on a très vite corrélé les phases de la lune et les marées. Et puis, les phases de la lune ont été très rapidement le meilleur moyen d'avoir une échelle de temps.
La première mesure du temps, les premiers calendriers étaient lunaires, je crois.
Les premiers calendriers sont lunaires. On est obligé d'avoir un calendrier solaire à cause des saisons et de l'agriculture. Mais disons qu'il y a trois échelles de temps. Il y a une échelle de temps très courte, qui est l'alternance du jour et de la nuit. Une échelle de temps longue, qui est l'année solaire avec les saisons. Et une échelle de temps moyenne, qui est à peu près de l'ordre grandeur du mois, qui est donné par la Lune.
D'ailleurs, le premier nom de la Lune, c'était Mince, qui veut dire moi, en latin. C'est aussi des calendriers qui fonctionnent, puisque c'est à partir du calendrier lunaire, je crois, que les musulmans fixent le ramadan.
Bien sûr. Il y a trois sortes de calendriers. Il y a les lunaires, les solaires et les lunisolaires. Donc, notre calendrier est totalement solaire. encore que des gens croient qu'il est lunisolaire, le calendrier religieux musulman est entièrement lunaire et le calendrier juif est lunisolaire.
À propos de religion, Jean-Pierre Verdet, toutes les religions ont divinisé la Lune, des religions de l'Antiquité.
Beaucoup, oui, la Lune est plus l'objet de croyances, de cultes. Je crois qu'il n'y a pas de grand culte lunaire, de religion totalement lunaire. Mais il y a une foule de... Enfin, ça va de la mythologie, et puis ça se dégrade en légende, en conte, en superstition. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de dictons, de légendes, de superstitions sur la Lune que sur le Soleil.
Et puis elle a toujours fasciné les artistes, les peintres, les musiciens et les écrivains comme Cyrano de Bergerac et Edmond Rostand.
Ah, quoi ? Quel est cet homme et d'où nous tombe-t-il ?
De la Lune !
Comment ?
T'es rien ! Je suis étourdi,
monsieur.
Comme une bombe, je tombe de la Lune.
Bonsoir, monsieur.
J'en tombe.
Quoi? Vous en tombez? C'est peut-être un démon.
Et je n'en tombe pas métaphoriquement.
Bon.
Il y a 100 ans ou bien une minute, j'ignore tout à fait ce que dura ma chute. J'étais dans cette boule à couleur de safran. Quel est ce continent? Où suis-je? Soyez franc, ne me déguisez rien. J'ai les yeux tout remplis de poudre d'astres. J'ai aux éperons encore quelques poils de planète. Tenez, sur mon pourpoint, un cheveu de comète. Hein. Il faut que vous sachiez comment la Lune est faite. Et si quelqu'un habite dans la rotondité de cette cucurbite.
Non !
Vous devez savoir comment j'y suis monté. Ce fut par un moyen que j'avais inventé. Et la tête partant la première, mon cher, car les cheveux surtout gardent l'eau dans leurs franges. Je m'enlevais dans l'air, droit, tout droit, comme un ange.
Et l'on entend une musique très connue de Villa-Lobos, mais dont on oublie qu'elle célèbre le lever de la Lune. Alors il faut que vous sachiez comment la Lune est faite, disait le Cyrano de Rostand, Jean-Pierre Verdet, mais malgré sa proximité, on a mis des siècles avant de comprendre justement comment elle était faite, et surtout comment et quand elle est née. On a cru longtemps qu'elle était un astre capturé en quelque sorte par l'attraction de la Terre, ou encore que c'était un morceau de Terre qui s'en était détaché, pas du tout.
Sur l'origine de la Lune, il y a eu très longtemps trois théories qu'on pourrait, par métaphore, dire est-ce que la Lune est la femme de la Terre, ou le mari, puisque les deux sont féminins dans notre civilisation, mais il y a des civilisations où la Lune est masculine, et le Soleil féminin. Donc, est-ce que c'est la femme de la Terre? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a été capturée, passant à proximité, capturée par la gravitation terrestre? Est-ce que c'est la fille de la Terre? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est née d'un morceau de la Terre? Et est-ce qu'elle est la sœur de la Terre? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a été formée en même temps que la Terre? Alors, très, très longtemps, enfin, dès que, après Galilée, quand la connaissance de la Lune, avec l'apparition du télescope, puis ensuite de la spectroscopie, de l'astrophysique, ne parlons pas du débarquement sur la Lune, on a l'hypothèse privilégiée par les astronomes, ça a été la sœur de la Terre.
Mais maintenant, ce que je voulais savoir, c'est en fait, quand est-ce qu'elle est née et comment?
Alors, maintenant, on pense que c'est bel et bien la fille de la Terre. C'est le plus probable maintenant. C'est la théorie la plus communément admise, ce qui signifie pas que ça soit la bonne. La capture est à peu près totalement exclue. Mais depuis qu'on a mis les pieds sur la Lune et qu'on a ramené des échantillons, on s'est aperçu que ces échantillons avaient une composition très proche des roches terrestres, les roches lunaires qu'on a ramenées, ont une composition très très proche des roches terrestres, mais qu'il y a quand même des différences significatives qui seraient expliquées par le fait que lorsque la Terre, au début, la Terre a 5 milliards d'années, mais elle est restée longtemps un magma fluide. Donc, aujourd'hui, quand même, l'hypothèse privilégiée, c'est qu'une météorite gigantesque, un bolide gigantesque, a arraché un morceau de terre, à la Terre qui a donné la Lune, et les petites différences de composition entre les roches lunaires et les roches terrestres seraient dues au fait que la composition de la Lune, c'est un mélange de la composition de la Terre et du bolide qui a arraché.
Et alors, autrement dit, tous ces morceaux arrachés de la Terre se seraient agglomérés pour former la Lune. Et ça, vous le dites, il y a 4 milliards et demi d'années. Voilà. Alors, on a cru aussi pendant longtemps que la Lune avait une lumière propre et non pas que sa lumière, ce qui est la vérité, était le reflet de celle du Soleil. On a cru aussi que parce qu'elle tournait autour de la Terre, eh bien, tous les corps célestes en faisaient autant. Ça a donné ce qu'on appelait le géocentrisme, persuadé que l'univers tournait autour de la Terre. Et on a même cru pendant des siècles que la Lune était un disque plat et sans relief, jusqu'à ce que les premières lunettes astronomiques permettent à Galilée de prouver le contraire.
C'est la petite chose grise ?
Oui, Éminence.
Mais c'est vrai ? Vous avez raison, Galilée. C'est extraordinaire. Et tout cela nous était inconnu. Mais quelle merveille !
Je ne l'explique pas, Éminence. Je le constate. L'observation précède toujours l'explication.
Galilée, nous devons revoir entièrement notre astronomie. Vous nous révélez un nouveau ciel. C'est à vous de nous le faire connaître. À vous de mener la révolution.
Et c'est d'une beauté extrême. C'est à vous d'écrire cette nouvelle astronomie. C'est à vous de renouveler le savoir. Votre lunette a mis la science en dessus-dessous.
Le premier à découvrir que la Lune avait un relief, Jean-Pierre Verdet, c'est Galilée en 1609.
C'est Galilée en décembre 1609, avec l'apparition de la lunette, dont il n'est pas l'inventeur, mais dont il est le premier à faire un usage astronomique, et surtout qui a des lunettes, des optiques d'une qualité exceptionnelle par rapport au reste du monde, par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, c'est dérisoire, mais parce qu'il est à Venise et qu'il a les verriers de Murano. À côté.
Alors, il découvre des choses qui vont permettre la cartographie de la Lune, qui sera faite plus tard par d'autres que lui, avec Gassendi, avec Hévelius, qui va donner des noms à ce qu'on a appelé faussement des mers, alors qu'il n'y a pas d'eau du tout sur la Lune.
Vous savez, en réalité, le statut de la Lune a toujours été ambigu. Il n'y avait pas unanimité. Il était ambigu pour une raison très simple, c'est que dans l'univers d'Aristote, qui perdure quand même pendant 2000 ans, jusqu'à Copernic, mais même plus, parce qu'il faut attendre le XVIIe siècle pour que la physique aristotélicienne soit vraiment pulvérisée. L'univers est coupé en deux. Il y a deux zones. Il y a le sublunaire, c'est-à-dire on croit que la Terre est immobile au centre du monde. Donc il y a deux zones différentes. Il y a le sublunaire entre la Terre et la Lune, et c'est le monde du changement, de la corruption et de la physique. Au-delà de la Lune, c'est la perfection. L'univers reste semblable à lui-même. Il n'y a pas d'astrophysique chez Aristote. On ne peut pas faire une physique de quelque chose qui est immuable, parce que toutes les lois se ramènent.
Mais revenons à ces mers, Jean-Pierre Verdet, parce que c'est vrai que c'est curieux, alors qu'il n'y a pas d'eau sur la Lune, qu'on parle de mer. En réalité, il s'agit de plaines.
Oui, mais c'est parce que quand on regardait la Lune à l'œil nu, on voyait qu'il y avait des zones plus sombres que d'autres. Donc on pensait que les zones sombres étaient des mers et que les zones plus claires étaient des continents. Mais il y a des gens qui pensaient que la Lune était... en tout cas totalement, enfin sans relief, et aussi unique qu'une bille d'acier inoxydable. C'est Galilée qui a découvert avec le télescope les montagnes lunaires et qui, à partir de la géométrie Terre, Lune, Soleil et les ombres, en quelques nuits, non seulement il a montré qu'il y avait des montagnes sur la Lune, mais il en a mesuré l'altitude, ce qui est quand même assez extraordinaire.
J'en viens en mer parce que, en fait, c'est vrai qu'on dit qu'il n'y a pas d'eau. On en a découvert il y a peu de temps, hein, je crois, c'était de l'eau glacée en réalité. Mais cela dit, pour qu'il y ait de l'eau, il faudrait qu'elle puisse être conservée. Or, là où elle est face au soleil, évidemment, il fait tellement chaud sur la Lune que ce n'est pas possible. Alors, ces mers, on leur a donné des noms tout à fait étonnants. Océan des tempêtes, mer de la tranquillité, celle où Armstrong va débarquer. Et puis alors, il y a aussi des montagnes auxquelles on ne s'est pas fatigué. On a donné des noms de montagnes terrestres. Il y a des Alpes, des Apennins, il y a un Jura, sur la Lune, il y a les Carpates, il y a le Caucase, et puis là, il y a des cratères, c'est peut-être ce qu'il y a de plus impressionnant, qui sont formés, je crois, par des astéroïdes, vous le dites, Jean-Pierre Verdet, qui sont tombés très vite, très peu de temps après la formation de la Lune.
Alors, la Lune est complètement grêlée. Maintenant, c'est un astre totalement mort, qui n'évolue pas, et c'est un astre qui n'a aucune atmosphère, Donc, les cratères ne sont pas des cratères volcaniques, ce sont des cratères météoritiques. En réalité, la Lune ne reçoit pas plus de météorites que la Terre. Mais il y a un double problème qui fait qu'il y a accumulation. C'est que, comme la Lune n'a pas d'atmosphère, sur Terre, il n'y a que les très grosses météorites qui arrivent jusqu'au sol. Les autres sont brûlées dans l'atmosphère avant d'arriver au sol. Comme la Lune n'a pas d'atmosphère, le moindre grain de sable arrive sur la Lune. Donc, il fait un trou. Oui. Et comme il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas d'érosion, oui. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de neige, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de tempête. Si vous prenez les... C'est très émouvant d'ailleurs. Si vous prenez les traces d'Armstrong sur la Lune, elles seront encore là dans quelques millions d'années. Comme il n'y a pas d'atmosphère, toutes les météorites arrivent jusqu'au sol et la trace, on ne peut pas dire l'éternité, il y a quand même le vent solaire. Mais c'est des millions d'années. Alors que quand vous marchez sur le sable d'une plage sur Terre,
elle s'efface tout de suite.
Un coup de vent et vos traces ont disparu.
Alors ces cratères, on leur a donné des noms d'astronomes, ce qui est légitime.
Oui, après quand la cartographie c'est
Copernic, Kepler,
c'est développé, on a donné des noms.
Giordano Bruno, c'est un cratère d'ailleurs très grand. Ils peuvent atteindre parfois un millier de kilomètres, oui. Sans compter ceux qui se trouvent et qu'on a découvert que très tard sur la face cachée de la Lune, puisque c'est en 59 que les Soviétiques ont réussi à la contourner. C'est les Soviétiques d'ailleurs qui ont été en tête de la conquête ou la découverte de la Lune pendant très longtemps avec leur sonde, jusqu'à ce moment extraordinaire, cette plus spectaculaire mission spatiale qu'aient jamais faite les Américains. C'était le 20 juillet 1969.
C'est fait, le LEM est posé. Le LEM est posé sur la surface lunaire.
Tranquility Base here, the Eagle has landed.
Ici la base de la tranquillité. L'aigle s'est posé. Tranquillité compris, ici on a retenu son souffle. On a été bleu de peur. Maintenant ça va mieux, on peut à nouveau respirer. Merci beaucoup.
On aperçoit une fraction du sol lunaire, je pense que c'est cela. Il y a une zone très claire qui barre une zone d'ombre. Et on voit l'un des pieds du LEM et le haut de l'échelle. L'image a changé maintenant. Et on voit le pied d'Armstrong qui descend avec beaucoup de précaution vers le barreau suivant. C'est fait.
Step off the land now. That's one small step for man. One giant leap for mankind.
Fly me to the moon. Let me play.
Surface is fine and powdery.
Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand.
Very fine grained as you get close to it. It's almost like a powder. Down there.
Baby, kiss me. Fill my.
On dit que pendant qu'ils étaient sur la Lune, Armstrong et Aldrin ont écouté Frank Sinatra, Jean-Pierre Verdet.
Oui.
C'est vraiment extraordinaire ce moment, ce 20 juillet 69. Je crois que tous ceux qui pouvaient le faire étaient devant leur poste de radio. Oui. Un grand moment de fraternité universelle parce que la Lune avait été enfin conquise.
Oui, c'est vraiment un moment extraordinaire. Et je vous dis, le plus émouvant, c'est ces traces d'Armstrong qui seront encore là dans quelques millions d'années, c'est bouleversant.
Et ces mots, un petit pas pour moi, un grand pas pour l'humanité.
Voilà.
Et alors, est-ce que ça a servi à quelque chose ou est-ce que c'était simplement une affaire de prestige, le moyen de rattraper et de dépasser les Soviétiques?
L'aspect prestige est indiscutable. Mais c'est là qu'on voit quand même la puissance de l'Amérique. C'est que les Américains avaient pris un retard incroyable sur les Russes, mais incroyable. Les Russes satellisaient Gagarine, que les Américains satellisaient un ballon de rugby. Et Kennedy, en 62, fait son grand discours. Et 7 ans après, vous vous rendez compte, 7 ans après, les Américains débarquent sur la Lune.
Et ils le feront jusqu'en 72. Il y aura encore 6 autres missions Apollo. 380 kilos de matériaux lunaires, de roches lunaires qui ont été ramenées. Et puis, c'est fini. En 72, ça s'est arrêté. Il y a 33 ans que plus personne n'a mis le pied sur la Lune. Je ne sais pas si ça se refera. En tout cas, la Lune a perdu depuis beaucoup de ses mystères, mais pas les légendes qu'elle continue d'entretenir. France Inter, Éric Delvaux, le 22 décembre 1999.
Les nuits de pleine lune sont souvent associées à bon nombre de fantasmes et l'on reparle de l'influence de cet astre sur les faibles individus que nous sommes. Les tueurs de pleine lune, est-ce que ça existe? Oui, affirme un ancien gendarme, il s'appelle Jean-Pierre Fabre. Il a écrit un livre qui a pour titre « Les assassins de la pleine lune ».
Lorsque vous arrivez par exemple en gendarmerie, beaucoup d'anciens sont là qui vous disent « Tiens, ce soir c'est la pleine lune ». risque d'avoir plus de travail que notre soir. Aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a une petite recrudescence qu'on constate les nuits de pleine lune. Moi, je pense simplement que les soirs de pleine lune, chez certains gens, il y a une tendance à l'action.
Moralité, les soirs de pleine lune, il faut rester chez soi.
Moralité, les soirs de pleine lune, il vaut mieux observer la lune peut-être que de sortir certaines fois.
Les légendes ont la vie dure, Jean-Pierre Verdet, mais est-ce qu'il s'agit d'une légende ou une de ces idées reçues sur la lune dont vous parlez dans votre livre? Est-ce que la pleine lune favorise la criminalité, par exemple? On l'a longtemps cru.
Je ne sais pas, je me méfie des statistiques de ces gens-là parce que, par exemple, les sages-femmes continuent à croire qu'il n'y a plus de naissance pendant la pleine lune. Or, les statistiques sont faciles à faire. L'état civil en France, quand même, c'est quelque chose de très au point. Il n'y a aucune corrélation entre les naissances et la pleine lune.
Et la criminalité?
Aucune. La criminalité, d'abord, c'est pas vrai que chaque pleine lune, il y a des assassinats dans les rues de Paris, d'une part. Et alors, si criminalité augmente, c'est pas impossible, mais c'est pas une action de la lune. C'est une action des légendes sur des cerveaux fragiles. C'est-à-dire qu'ils vont choisir la pleine lune. Ce sont des crimes de gens. De toute façon, pour assassiner quelqu'un, il faut être un peu dérangé. Mais on peut être totalement dérangé. Il y a quand même des crimes passionnels où on n'est pas forcément dérangé, où on est dérangé que pendant quelques secondes, et ça suffit pour tuer quelqu'un. Mais s'il y a des assassins de la pleine lune, ce n'est pas une action de la lune. C'est une action purement psychologique.
Autre légende qu'on a longtemps entretenue, dites-vous, c'est son action sur le cycle féminin qui correspond justement au cycle lunaire. D'ailleurs, on appelle justement
les
cela
menstrues.
Des menstrues, de mince, hein, du mois. Mais vous dites que c'est faux.
C'est faux pour de multiples raisons. C'est une coïncidence. D'abord, le cycle féminin, je suis navré, toutes les femmes n'ont pas. D'abord, tous les mammifères, toutes les femelles mammifères ont un cycle menstruel. Enfin, ont un cycle de règles.
Et ce n'est pas le même.
Ce n'est pas le même.
Pas
donc
même
si c'était la lune, ça c'est tout. Et toutes les femmes auraient leurs règles en même temps. Et puis quand même, les règles la menstrue féminine évolue sur plusieurs jours, alors que le cycle lunaire. Non,
autre légende, dites-vous, c'est la lune rousse qui est redoutée par les jardiniers parce qu'elle brûlerait les jeunes plantes.
Alors ça, c'est plus intéressant parce que c'est vrai. C'est très intéressant parce que c'est la confusion entre un rapport de cause à effet et l'effet de deux causes. La lune rousse, c'est les pleines lunes de printemps. Alors, au printemps, la Terre continue à se refroidir. Elle a emmagasiné des frigories. Donc, si la lune est très visible dans le ciel, la pleine lune est très très claire dans le ciel au printemps, ça veut dire que le ciel est très clair. Et quand le ciel est clair, la Terre se refroidit beaucoup plus vite, première chose. Deuxième chose, les jeunes pousses sont très fragiles. Donc, en réalité, elles meurent du froid, mais pas du tout de la lumière lunaire. C'est Arago qui a montré que c'était deux effets d'une même cause et non pas du tout un rapport de cause à effet.
Alors d'autres légendes encore, celles-là vous y croyez plus. Par exemple, la lune blanchit le linge. C'est pour ça qu'on l'étale,
oui,
on l'étalait
oui,
autrefois dans les...
Ça, on peut le constater. Ouais. Empiriquement, on en a trouvé la raison et les ménagères avaient remarqué que, en plus, que quand elles faisaient sécher le linge sur l'herbe la nuit, elles le réhumectaient avant de mettre sur prêt. C'est un phénomène de photoluminescence qui fabrique un petit peu d'oxygéné, disons, pour faire vite. Mais pour ça, il faut que le linge, c'est très très lent, donc il faut que le linge sèche tout doucement.
Donc vous le recommandez.
Donc si vous le mettez au soleil, l'effet n'a pas le temps de se développer. Ça marcherait aussi, mais comme la lune, c'est la lumière réfléchie du soleil, il y a le même effet, comme c'est très lent,
alors,
donc ça blanchit le linge, ça c'est vrai.
La lune a quand même donc des effets sur la Terre, et le plus connu, bien sûr,
c'est
obligatoire, c'est les marées. Là c'est vrai. Hein,
ouais. C'est une théorie très compliquée, parce que le profil des côtes, la masse en cause...
Sur les
océans.
La
Méditerranée a très peu de marées parce que la masse n'est pas suffisante. C'est pas un hasard si c'est le Pacifique qui a les plus grandes marées. C'est parce que la masse est énorme. Mais là, c'est les effets de la gravitation universelle.
Oui.
En fait, c'est un effet lunisolaire. Hein. C'est un effet différentiel entre l'attraction lunaire et l'attraction solaire. C'est pour ça qu'au moment des équinoxes, les marées sont plus fortes.
Et cela à cause de la Lune, entre autres, dont vous parlez aussi dans votre livre « L'univers » publié aux éditions du Cavalier Bleu. Vous êtes également l'auteur, Jean-Pierre Verdet, de deux autres livres, « Le centre, le cercle et la périphérie » publié aux éditions « Le temps qu'il fait », ainsi que « La sagesse de l'astronome » publié chez Œil Neuf Éditions, distribué par les Belles Lettres. À lire également « Découvrir la Lune » de Jean Lacrousse et Christian Legrand, publié chez Larousse, et « Le Grand Atlas de la Lune » de Thierry Legault et Serge Brunier, également chez Larousse. Vous pouvez consulter aussi l'article Lune dans le très intéressant dictionnaire culturel en langue française publié sous la direction d'Alain Rey aux éditions Le Robert. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Galilée ou L'amour de Dieu de Jean-Daniel Verheg, disponible en DVD chez Coma Film, et Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rapneau avec Gérard Depardieu, édité en DVD chez Pathé Vidéo. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou consulter notre site sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Patrick Henry, documentation et extraits sonores, Claire Destacan, Claire Tesser, Mathieu Ménessy, Caroline Chausset et Amélie Briand-Lejeune, une réalisation de Anne Kobilac.